Sous les doigts d'Horowitz. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Will you stop, please?
Oh, dear.
Bonjour à tous. Cet été, je vous propose un voyage imaginaire avec l'un des plus grands pianistes au monde, Vladimir Horowitz. Cela a pu se passer n'importe quand tout au long de la carrière du pianiste. Nous sommes dans les coulisses, quelques secondes avant que Vladimir Horowitz ne rentre sur scène. Il est là, pétrifié contre le rideau, dans une lumière fantomatique. Wanda, sa femme, est à ses côtés, le regard noir. Son impresario est juste derrière lui. Il entreaperçoit le public, il l'entend mugir en silence. Volodia ne veut pas y aller. Il sent qu'une crampe peut surgir. La sueur perle déjà sur son front. Le trou de mémoire, oui. Il va avoir un trou de mémoire, c'est sûr. Et cet élastique de chaussette qui lui serre le mollet, il va le gêner pendant tout le concert. Son dos est raide. Et ses mains, regardez-les. Elles sont en bois. Non, en glace. Prêtes à se briser. Le pianiste se précipite vers le pompier de service, le supplie de réchauffer ses mains dans les siennes. Wanda lui murmure que ses doigts vont jouer tout seuls comme toujours. Et il a envie de hurler. Justement, c'est ce qu'il ne veut pas. Il n'est pas une bête de cirque. La main dans le dos. C'est celle de son impresario qui le redirige vers l'entrée du gouffre. Une légère pression. Faire demi-tour. Filer en douce. Est-il encore temps? La main est plus ferme. L'impresario donne une dernière impulsion dans le dos d'Horowitz. Malgré lui, il fait un pas. Deux pas. La lumière l'aveugle, le public se lève. Il ne peut plus faire demi-tour. Trois pas, dix pas, non, il ne tombera pas. Il faut affronter le monstre avec le sourire. Il salue à peine, s'assied. Il se relève pour saluer encore. Vladimir Horowitz s'assied à nouveau dans le silence, sort son mouchoir, s'essuie le visage et les mains, pose le mouchoir sur le piano. Et ce piano d'ailleurs, son Steinway, est-ce qu'il va l'aimer aujourd'hui? Personne ne le sait, mais un concert est raté quand le piano n'aime pas son interprète et les pianos sont lunatiques. Il avance le tabouret, non finalement, ce sera plus son arrière. Il regarde le public droit dans les yeux. Sous les doigts d'Horowitz, il y a autant de douleur que de bonheur.
Thank you.
Qu'y a-t-il sous vos doigts, monsieur Horowitz? Après des mois de recherche et d'écoute, plus je m'approche de vous, plus vous vous éloignez. Cher, inénarrable Volodia. Êtes-vous celui qui pleure en jouant Schubert? Êtes-vous le plus capricieux de tous les pianistes? Le virtuose qui voulait surpasser Liszt? Êtes-vous le mélancolique ou le clown? Le pianiste du siècle, l'ouragan des steppes, l'ange et le démon, il existe tant de qualificatifs dont on vous a affublé, tant de clichés dont je voudrais tenter de me débarrasser. J'ai bien peur que cette série d'émissions ne soit qu'une succession de questions. Je vous vois en trois romans. L'un est russe, l'autre proustien et le dernier américain. Mais chacun d'entre eux contient bien des pages blanches. Forcément, j'imagine qu'il neige sur Kiev ce soir d'hiver 1908. Le petit Volodia, c'est son surnom, gamin de 5 ans, tient la main de sa mère en sortant de la salle du conservatoire où ils ont assisté à un concert. Ses frères et sa sœur aînée marchent devant eux. Ils vont se mettre au chaud maintenant, dans le salon de musique de la maison familiale. C'est encore une soirée à éloigner les mauvais souvenirs qui planent toujours sur la ville, songe la belle Sofia Gorovitz, la mère de Volodia. Et oui, le vrai nom de Vladimir est Gorovitz. Cela fait 4 ans, juste avant la naissance de Volodia, que la famille a quitté la bourgade industrielle de Bernitchev pour rejoindre la capitale provinciale, Kiev. 4 ou 5 ans, car il reste un doute sur la date de naissance de Vladimir Horowitz. 1903 à Bernitchev ou 1904 à Kiev. Son père aurait changé sa date de naissance pour lui éviter le service militaire. Qui sait ? Un premier mystère. La plupart des biographes s'entendent sur 1904. Quoi qu'il en soit, quitter le Châtel et vivre bourgeoisement était le vœu le plus cher de Siméon, le père de Vladimir. Ses propres parents, des marchands aisés, avaient connu l'époque où les Juifs n'avaient pas accès à la ville en dehors des jours de marché. Après-guerre, on parlera de ces régions ukrainiennes comme de la terre de sang. Pourtant, les pogroms avaient commencé dès les années 1880 et en ce début de siècle, les massacres s'étaient amplifiés. 1903, à Kitchinev, en Bessarabie, un enfant est assassiné. La rumeur de meurtre rituel enfle. Quelques jours plus tard, à l'occasion de la fête de Pâques, la foule dévaste les quartiers juifs, pille et brûle des centaines de magasins et d'habitations, tue des dizaines de juifs. Les forces de l'ordre reste passive. 17 octobre 1905, le tsar signe le manifeste et fait un pas vers une monarchie constitutionnelle. Mais les mois de novembre et décembre suivants, on recense pas moins de 657 pogroms, plus de 3000 victimes, 15000 blessés. Il s'agit d'irruptions dans une synagogue le jour de Yom Kippour, de pillages, de fusillades, d'incendies, d'assassinats dans la rue. L'écrivain Isaac Babel se souvient d'avoir vu des enfants briser les vitrines avec des gourdins de bois, des femmes ressortir des boutiques avec des baluchons pleins d'objets volés. Il n'est pas rare d'entendre des coups de feu. C'est ainsi que Volodia, à 3 ans, a été blessé dans une rue de son quartier par un éclat de verre. On venait de tirer dans la vitrine d'un commerçant juif. « À quoi ressemble Kiev ? Je pioche dans le roman de Mikhail Bulgakov, La Garde Blanche. Comme une ruche aux innombrables alvéoles, la ville bourdonnait, fumait, vivait, splendide dans l'air gelé et les traînées de brouillard sur les hauteurs qui dominent le Dniepr. Tout le jour, les tramways aux banquettes jaunes paille rembourrées, comme on les fait à l'étranger, parcouraient les rues dans un vrombissement continu, agréable à l'oreille. Les cochers de fiacres dévalaient les pentes en poussant des cris et les cols de fourrure sombre, argentée ou noire, donnaient au visage des femmes une mystérieuse beauté. En hiver, plus que dans aucune ville au monde, le silence et la paix descendaient dans les rues et les ruelles de la ville, aussi bien de la ville haute, accrochée à flanc de rocher, que de la ville basse, étalée dans un méandre du fleuve glacé. En 1907, les pogroms ont cessé. Oui, il fait presque bon vivre à Kiev. Volodia entend le tout nouveau funiculaire au loin, celui qui relie les bas quartiers aux hauteurs de la ville, là où se trouvent les deux cathédrales, le théâtre, l'opéra, le musée et l'université. La ville a beau être provinciale, on y compte des cercles littéraires et philosophiques, un orchestre, un corps de ballet. On a pu y voir Meyerhold, Sarah Bernhardt et Chaliapine.
Ooh.
Les Gorovits habitent à deux pas du conservatoire et cela ne s'invente pas, au coin de la rue Kroriesnaya et du passage des musiciens. Siméon les attend dans leur appartement cossu. On peut l'imaginer en veste d'intérieur de soie, lire du Victor Hugo dans le texte ou préparer une commande des dernières parutions littéraires et musicales à Paris ou à Berlin. On ne peut comprendre Vladimir Horowitz, le collectionneur de nœuds papillons, si on ne se représente pas son père, grand, bel homme, élégant, jusqu'au snobisme. Siméon est ingénieur électrique, il a étudié en Belgique et parle un français et un allemand parfait. Avec ses beaux-frères, il a fondé une société qui représente des firmes électriques allemandes. Un marché plus que prospère, l'avenir lui tend les bras. Tout en lui respire une bourgeoisie qui doit faire oublier ses origines hébraïques. Poursuivons notre séquence de film. Derrière la fenêtre, il neige toujours évidemment. Un grand poêle de faïence bleue dispense sa chaleur dans la grande pièce au canapé de velours pourpre. Les parquets cirés brillent et entre les tapis orientaux. Le parfum des aiguilles de pin se mêle à celui de la paraffine des bougies. Le samovar siffle et crache. Une servante polonaise apporte le service à thé en porcelaine dorée. Mais oui, nous sommes chez Bulgakov, Nabokov ou Tolstoï. Comme tous les soirs, Volodia et sa mère se sont mis au piano pour un quatre-mains. Sofia propose un de ces airs qui plaît tant au petit dernier de la famille, comme le chant du paysan de Grieg. L'enfant roi, chéri, gâté, idolâtré par sa famille, dort. Non, sans s'être fait cajoler par tous, non, sans que chacun ne se soit fait signe « chut », tant que le petit au sommeil si délicat n'ait fermé les yeux, non, sans avoir marché sans faire de bruit pour regagner sa chambre. Car les colères et les caprices de Volodia sont craints de tous, oui, déjà. Les nerfs, dira-t-il plus tard, cette ultra-sensibilité qui frémit dans ses doigts et qui vrille son humeur. Tout le monde fait de la musique dans la famille Gorovits. Sofia a suivi des cours à l'école royale de musique, le conservatoire. Regina, la sœur aînée de Volodia, se révèle très douée. Son frère Jacob fait aussi du piano et Georges du violon. Alexandre, le frère de Siméon, a étudié la composition avec Scriabine au conservatoire de Moscou avant de diriger l'école de musique de la ville de Kharkov.
Ma mère m'a raconté que lorsque j'avais 3 ans, je jouais du piano sur les carreaux de la fenêtre et j'ai cassé la vitre et j'ai eu les mains en sang. Et ils se sont dit, il voudrait peut-être jouer du piano, ça doit vouloir dire ça. À 3 ans.
5 ans, bonne oreille, bonne mémoire. Le jeune Volodia étonne sa mère par sa sensibilité musicale. Il arrive, dès ses premiers pas au clavier, à exprimer des émotions. Mais surtout, son agilité est extrême. Son plaisir, jouer vite.
Oui, ma mère m'a appris, elle m'a enseigné. Elle a été mon premier professeur. Elle n'était pas une professionnelle, mais une honnête pianiste. Et dans ma famille paternelle, ma grand-mère était aussi pianiste, une bonne pianiste, qui avait reçu l'enseignement d'Anton et Nikolai Rubinstein.
Fameux Anton et Nikolai Rubinstein, deux frères pianistes, parfois compositeurs et très célèbres pédagogues. À ne pas confondre évidemment avec Arthur Rubinstein. L'enfant pioche dans la large bibliothèque musicale de la maison et va montrer un talent de déchiffreur inouï.
Je viens d'une famille cultivée. Mon père était un des meilleurs ingénieurs. Il avait bien réussi. Il avait tous les livres et toutes les partitions que vous pouvez imaginer. Tout cela était accessible au jeune garçon que j'étais.
Il est clair que le petit Volodia acquiert très vite un niveau au-dessus de la moyenne. Il s'amuse beaucoup avec le piano. C'est un jeu et sa famille lui témoigne son admiration lors de mini-récitals dans le salon de musique familiale. Un jeu, mais Volodia porte une queue de pie qu'il a bien fallu lui faire confectionner. Il apprend à saluer comme il se doit. C'est un jeu parce que ni Sofia ni Simeon n'encouragent leur enfant à se croire un prodige. Vladimir Horowitz a d'ailleurs toujours affirmé qu'il ne l'était pas en ces termes. « Je ne l'ai jamais été. J'avais des parents très intelligents et j'aurais pu déjà me produire en public, mais mon père a dit « Non, je ne le laisserai pas jouer avant qu'il n'atteigne la maturité. » Mais ce qui n'est pas un jeu, c'est que Vladimir a déjà compris que ses doigts lui donnent un pouvoir de séduction irrésistible. Grâce à ses doigts, il peut se faire aimer. Pourtant, faire des gammes l'ennuie. Non, ce qu'il aime, c'est découvrir. Et en fouillant dans la bibliothèque familiale, il tombe sur une musique qui l'envoûte. Il s'agissait de quelques préludes de l'opus 23 de Rachmaninov.
Sous les doigts d'Horowitz. Emmanuel Franc, France Musique.
1912. Ces années-là, le grand pianiste, c'est Joseph Hoffmann. Hoffmann a justement été un célèbre enfant prodige, qui a donné ses premiers concerts à 5 ans et est devenu une superstar internationale à 10 ans. Le pianiste a un répertoire immense, ce que Volodia a bien noté. Lorsqu'Hoffmann vint à Kiev pour un concert, Sofia n'a pas réussi à obtenir des places. Le petit Volodia n'en a pas démordu, lui. Il voulait voir le grand Hoffmann et y est arrivé en se glissant tout simplement derrière un grand et gros bonhomme. À la suite de ce concert volé, le jeune Vladimir a enfin accepté de travailler son piano. L'âge où il doit entrer au conservatoire. Le choix du professeur est crucial. Or, Vladimir Pouchalski, bien qu'émérite et ancien professeur de Sofia, est dur d'oreille et très autoritaire. Ne pas lui confier ses enfants aurait été sacrilège, même si elle redoute les méthodes rugueuses de l'enseignant. Il faut imaginer le rituel. Pouchalski utilise la méthode de son maître, le fameux Leczetyski, élève de Czerny. Néanmoins, c'est ainsi que Volodia entre dans la longue lignée des élèves de, professeurs de, en d'autres termes, l'aristocratie musicale. Il va devoir se plier aux exercices de flexibilité du poignet, relaxation de l'avant-bras et des épaules, la main voûtée. Un travail technique qui n'a rien d'amusant pour un enfant qui rechigne à s'exercer. Il va rapidement faire des progrès, mais en saura peu gré à ce vieux grégoût de professeur. Je suis aussi incapable de vous dire comment j'ai appris la technique que comment j'ai appris les langues, dit-il. Ce que je sais, c'est qu'en musique, je trouvais ce que les doigts devaient faire et que je le faisais. La seule source était la musique. Il faut dire que le gamin est tétanisé tant il craint l'enseignant. Il se fait beau pour passer la leçon, joue au mieux certes, mais tristement. Au fond, il est en train de se replier sur lui-même. Les cris de ce vieil homme ne s'arrêtaient jamais. Il était incapable de m'enseigner l'amour de l'instrument. C'était de mauvaise grâce que je me mettais chaque jour à ces exercices obligatoires. Pouchalski infligeait les fugues et préludes de Bach que Volodia s'est mis à détester. Du coup, tout un pan du répertoire le rebutait. Cette indépendance d'esprit naît donc très tôt chez le musicien, et pour longtemps. Bien plus tard, il reviendra sur ses réticences. Il dira « Cela m'a pris longtemps d'accéder à un compositeur comme Beethoven. Il faut se développer dans sa propre voix, sans chercher à se justifier et certainement sans essayer de prendre une position artificielle qui consisterait à proclamer son admiration pour ce qu'on n'admire pas vraiment. » Quand Vladimir jouera les préludes de Bach, il en proposera une interprétation si personnelle que l'on doute qu'elle ait satisfait Pouchalski. Heureusement, le répertoire est large et la bibliothèque paternelle fourmille de merveilles. Volodia étudie des compositeurs qui pour certains sont oubliés ou peu joués en Europe aujourd'hui. Sgambati, Moscheles, Glière, Glazounov, le magnifique Metner. Mais celui qui est vraiment en bonne place, c'est Scriabine. Or, Scriabine, il l'a rencontré.
Oui, 3 mois avant sa mort, en 1915. Je ne sais pas, mais je me souviens qu'il était à Kiev avant un concert où il jouait une de ses 8 sonates pour la première fois. C'était 3 heures avant, parce que mon oncle, le frère de mon père, avait été son meilleur élève, Alexandre Gorovitz. Il vivait à Moscou. Il avait obtenu une médaille quand il avait fini le conservatoire. Et c'était un ami proche de Scriabine, très proche. Et lui a dit, j'ai un neveu, vous savez, qui a un certain talent, si vous vouliez prendre le temps de l'entendre. Je peux m'imaginer à quel point il a dû me détester à ce moment-là, parce qu'il avait à interpréter un concert 3 heures après. Mais j'y suis allé avec mon père et ma mère, et j'ai joué quelques petits morceaux, je ne sais plus. J'étais un enfant, vous voyez, 6-7 ans. Et il a donné à ma mère un bon conseil. Il lui a dit, votre fils sera toujours un pianiste, mais n'oubliez pas de lui donner une bonne culture générale. C'est ce qu'il y a de plus important. Qu'il connaisse tout. Il doit connaître toutes sortes de musique, toutes sortes de littérature, et toutes les facettes de l'art et ce genre de choses. Et c'est ce que mes parents ont fait.
Plus tard, est-ce la douceur et la tendresse de ces quelques minutes passées avec le compositeur qu'il évoquera ? Mais Scriabine n'a fait aucun commentaire sur la virtuosité du jeune pianiste. La question se pose. Vladimir, est-il un enfant prodige ? 1914, un nouveau professeur va s'occuper de lui maintenant et décider que oui, il est virtuose. Il va devenir son élève fétiche, de quoi flatter l'inépuisable narcissisme de l'enfant choyé. Serge Tarnowski, brillant jeune pianiste mais victime du trac, n'a pas su gagner l'adhésion du public, mais a développé un évident talent de pédagogue. Il se retrouve face à un élève étrange et solitaire, qui refuse de travailler les œuvres obligatoires pour les concerts d'école, un rebelle, un têtu, voire un arrogant et méprisant avec les autres élèves qu'il estime ne pas être à son niveau. Le professeur va rapidement devenir un familier des Gorowitz. Il connaît les failles et les douleurs secrètes autour de Volodia. Son frère, Georges, qui joue du violon, manifeste des troubles mentaux, ce qui laisse peu de possibilités à Vladimir pour inviter des enfants de son âge chez lui. Cela nous aide peut-être à mieux comprendre la profonde inquiétude enfouie dans son histoire. Un constant effroi cristallisé autour des souffrances de ce frère aimé, dont nous reparlerons bientôt, une blessure que seul le piano peut panser. Mais il y a aussi des moments de gaieté. Ainsi, Tarnowski assiste encore au bonheur que son élève partage avec sa cousine. Ils écoutent les disques sur un gramophone, Enrico Caruso, Mario Battistini et Luisa Tetrazzini. Est-ce qu'on chantait chez les Gorowitz ? Allait-il à l'opéra ? Ce qui est sûr, c'est que très vite, Vladimir construit un indéfectible lien entre le piano et la voix. Il a toujours dit « Ce que je voulais, c'était chanter au piano. J'écoutais ces chanteurs du bel canto du matin au soir. Cela m'a influencé en tout. » Et nous verrons dans les prochains épisodes comment la fameuse ligne mélodique du grand Horowitz est née de cette passion pour le chant, tout comme elle le consolera de lourds chagrins.
Et je dois vous dire que lorsque j'ai eu 18-19 ans, j'allais me coucher et sous mon oreiller, il y avait la partition du Crépuscule des dieux de Wagner, pas les préludes de Chopin. J'étais plus intéressé par l'opéra et par les symphonies de Brahms, de Bruckner, de Mahler quand j'avais 20 ans. Je connaissais toute la musique et j'étais très intéressé par l'opéra et le chant.
Serge Tarnowski saisit vite que ce plaisir du chant est une question essentielle pour le jeune Volodia. Quand époustouflé, il le voit déchiffrer à vue le Coq d'Or, Boris Godounov, la Dame de Pique, la Bohème et Salomé. Si Tarnowski a décidé de ne pas restreindre son élève à des programmes obligés, Il constate tout de même que son impatience à découvrir du répertoire a pour effet qu'il n'approfondit rien. Alors il l'encourage à travailler des œuvres qui lui sont encore inconnues et c'est une façon de le stimuler tout en le faisant progresser. Mais il y en a un sur lequel il ne cède pas, c'est Chopin.
Sous les doigts d'Horowitz, Emmanuel Franc, France Musique.
On peut imaginer la jubilation du gosse quand de telles phrases lui tombent naturellement des doigts, sans travailler. Comme si tout à coup, son agitation perpétuelle trouvait un exutoire. Comme si sa sauvagerie devenait le moyen d'enflammer son auditoire. On imagine encore la consternation de son professeur qui cherche à le détourner de sa fascination pour la virtuosité, pour le protéger de lui-même. Mais l'enfant sait qu'il y a là un secret. Sa virtuosité n'est qu'un moyen. Il est très clair, écoutez plutôt, je voulais résoudre mes difficultés de pianiste non pas par des exercices physiques, mais à travers la musique. D'ailleurs, il explique lui-même comment il détournait l'ennui de faire des gammes.
Oui, ça en présentait, mais je les ai dépassés à travers les œuvres que je jouais. Pas seulement avec des exercices de gymnastique. Je n'ai jamais travaillé le piano en pratiquant une gymnastique des doigts. J'ai toujours trouvé des œuvres et je me disais, ça doit se jouer très vite. Et là, il fallait que je travaille pour que ça sorte.
Mais finalement, pour Vladimir, ce qui relève de la performance physique serait plutôt les mouvements lents.
Ça me rappelle une anecdote que Rachmaninoff m'a racontée. Quand Maurice Rosenthal était jeune, c'était un technicien fabuleux. Tout le monde venait à la fin des cours de Leschetizky qu'il donnait le vendredi ou le samedi. Tous les élèves de Leschetizky se retrouvaient. Et il jouait son papillon et ses pièces à lui. Et tout le monde disait « Oh my God !» Et quelqu'un lui a demandé de jouer une romance ou quelque chose d'autre. Il a dit « Oui, avec plaisir. » Rachmaninoff m'a dit « Jusque-là, il avait joué toutes ses notes sans faire couler une goutte de sueur. Il avait joué ça, comme ça. Mais là, quand on lui a demandé de jouer quelque chose de lent, quelque chose de mélodique, là, il a commencé à transpirer. »
Vladimir raconte aussi « Ma mère me criait dessus. tu ne travailles jamais. Et c'était vrai. Je ne travaillais jamais les études de Chopin ou Bach, Mozart ou Schubert. Et ma mère sortait de ses gonds parce que j'apportais à Tarnowski de la musique que j'aimais, pas celle que j'étais censée jouer. Finalement, elle est allée voir mon professeur pour lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites ? Au lieu de jouer du Bach, il joue du Rachmaninov. » Sophia n'a-t-elle rien compris ? Rachmaninov est un dieu pour le gamin. Mais Siméon Gorovitz a compris, lui. Et quel plaisir plus grand pourrait-il faire à son fils ? Mon père n'était pas timide, vous savez. Par l'intermédiaire d'un ami, quand j'avais 12 ans, il supplia Rachmaninov de m'entendre. Et Rachmaninov, qui était un homme timide, avait peur de dire non à ce genre de requête. Aussi le grand compositeur accorda-t-il un rendez-vous à ma mère dans un hôtel de Kiev. Mais lorsque nous sommes arrivés, ma mère et moi, pour mon audition, qui était prévue à 16h, le concierge nous a dit que Rachmaninov avait quitté Kiev par le train de 15h. Des années après, en Amérique, j'ai finalement rencontré Rachmaninov et je lui ai demandé pourquoi il m'avait fui. Il a ri en disant que c'était parce qu'il détestait les enfants prodiges et qu'il avait peur, s'il ne me trouvait pas assez bon, de devoir mentir à ma mère ce qu'il n'aurait pas fait. Rachmaninov n'est-il pas le reflet lointain des années douces de l'enfance de Vladimir à Kiev? La suite, la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter, je vous propose de rester avec Rachmaninov pour le deuxième concerto pour piano enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie dirigé par Léopold Stokowski, enregistré en 1929.
Thank you.
Vous venez d'écouter le deuxième concerto de Rachmaninov avec Rachmaninov. L'orchestre philharmonique de Philadelphie était sous la direction de Léopold Stokowski. C'était Sous les doigts d'Horowitz, une émission d'Emmanuel Franc réalisée par Christine Amado, préparée par Françoise Monteil et à la technique il y avait Cédric Châtelus. Deuxième épisode de la saga Horowitz la semaine prochaine.